en effet le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Et effectivement, notre Père Céleste, nous voulons prier que ta parole soit une lampe devant nos pas et que tu fasses briller ta lumière dans notre cœur. Amen.
Amen.
C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Les premiers mots d'orgueil et préjugé de Jane Austen. Mais dans la suite du livre, on découvre que cette vérité universellement reconnue n'est pas si universelle. Maman est morte. Peut-être plus facile, c'est les premiers mots du livre, l'étranger d'Albert Camus. Et ces premiers mots choquent, dérangent, déstabilisent. Mais ce sont aussi des mots qui présentent le contexte pour la suite. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Privé Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Et ce sont les premiers mots de Harry Potter. Des premiers mots qui semblent plutôt banals. Mais ces lignes laissent penser que Madame et Monsieur Dursley ne sont pas si normaux que ça. Et quelques pages plus tard, leur vision du monde sera transformée et le monde fictif de J.K. Rowling sera présenté. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les premiers mots de la Bible. Et comment est-ce que vous les trouvez? Est-ce que ce sont des mots plutôt banals pour vous? Pourtant, ces mots devraient transformer notre vision du monde. Pour les premiers lecteurs, entourés par des sociétés polythéistes où la matière était mauvaise et les humains n'étaient que des esclaves des dieux et les rois étaient les demi-dieux, les mots de Genèse 1 auraient choqué, dérangé, déstabilisé. Il se peut que ces mots vous choquent, vous dérangent ce matin. Et si c'est vrai que ces mots de Genèse 1 ne sont pas forcément des vérités universellement reconnues et acceptées, et peut-être c'est votre cas ce matin, ils méritent pourtant d'être lus, d'être pesés, et que Dieu nous montre ce qui est vrai. Alors je vais passer la parole à Lisa, qui va lire Genèse 1 à partir du verset 1. Lisa, merci.
Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, qu'il y ait de la lumière. Il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui était au-dessus de l'étendue de celle qui était au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu dit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit, et contiennent leurs semences, selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours, les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel, au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les animaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Amen.
Merci, Lisa. Dieu a créé le monde. Verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est le titre qui résume tout ce qui est écrit jusqu'au chapitre 2, verset 3. Et déjà, c'est une vérité qui transforme notre vision du monde. Dieu crée, il existe, un créateur. Ce n'était pas un accident ou un événement au hasard. Dieu crée. Et Dieu créa le ciel et la terre, tout ce qui existe. Dieu a créé de façon ordonnée et organisée. Et alors, toute chose trouve leur origine chez Dieu. Et tout de suite, nous apercevons un clash avec la pensée de nos jours. La pensée de nos jours qui nie que Dieu existe. Mais Voltaire lui-même a écrit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Admettons avec Voltaire que quand nous voyons les montagnes couvertes de neige ou la Voie lactée traverser le ciel, nous avons du mal à nier qu'il y ait quelqu'un derrière tout cela. Admettons ici que nous ne sommes pas forcément neutres quant à l'existence de Dieu. L'avantage de dire il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de maître. Ni Dieu, ni maître, franchement, ça nous convient. Parce que nous ne sommes redevables à personne. Mais le psaume 24 dit avec raison, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qu'il habite. Car Il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Dieu a créé le monde et donc nous lui sommes redevables. Et alors, il est comment ce Dieu qui a créé le monde et auquel nous sommes redevables? Alors, le récit de la création est très instructif. Et pour nous aider, résumons ce qui se passe. D'abord, nous avons les trois premiers jours où Dieu crée et prépare les habitats. Dieu crée la lumière, il crée les eaux, et il crée la terre et la végétation. Et puis, les prochains jours, Dieu remplit les habitants avec les habitats. Dieu remplit les habitats des habitants. Nous voyons les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Dieu crée les êtres marins et les animaux et les êtres humains. Dieu crée les habitats et ensuite il est rempli des habitants. Alors reconnaissons la puissance incomparable de Dieu. Le verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Il est possible qu'avec mon enceinte connectée et mon assistant numérique, que je puisse dire que les lumières s'allument. Mais sans Wi-Fi, rien. Sans électricité, rien. Sans les milliers d'ingénieurs qui ont codé et développé la reconnaissance vocale, rien. Sans les centres nucléaires et les éoliennes qui produisent l'électricité, rien. Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut de la lumière. Reconnaissons la puissance incomparable de Dieu. Reconnaissons aussi la bonté et la générosité de Dieu. Dieu crée un monde abondant et fructueux. Il le remplit d'herbes, d'arbres, de plantes, d'étoiles, du soleil, de la lune, d'oiseaux et de poissons, de bétail et de reptiles. Et cinq fois, Dieu voit que c'était bon. La bonté et l'abondance de la création reflètent la bonté et la générosité du Dieu créateur. Reconnaissons aussi l'activité de Dieu. Si j'ai bien compté, dans notre lecture, Dieu est le sujet des verbes 43 fois. Dieu crée, Dieu dit, Dieu fait, Dieu appelle, Dieu place, Dieu bénit, Dieu donne, Dieu voit, Dieu regarde, Dieu constate. Dieu n'est pas loin de la création, mais il est pleinement à l'œuvre. La création dépend de lui. Reconnaissons l'activité de Dieu. Alors c'est là où je veux bien dire quelques mots par rapport à notre compréhension de la science et de la création. Vous pouvez regarder la confession de foi de cette Église sur notre site web et vous verrez que nous ne prenons pas position par rapport au comment de la création. Nous confessons que Dieu, dans sa parfaite bonté, a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Nous croyons que cette création était à l'origine entièrement bonne et qu'elle reste orientée vers la réalisation d'un projet de justice et d'amour. Nous avons pris la décision de ne pas dire plus sur le comment ou sur le quand de la création, car nous ne voulons pas nous diviser là-dessus. Mais ça vaut la peine de dire que parmi les chrétiens évangéliques, c'est-à-dire les chrétiens qui prennent au sérieux la Bible, il y a trois grandes tendances. D'abord, l'interprétation littérale. L'interprétation littérale. C'est-à-dire, on voit six jours de 24 heures qui donnent une chronologie exact de l'œuvre créatrice de Dieu. Deuxièmement, on voit aussi l'interprétation littéraire. On voit dans les six jours un cadre narratif, une présentation stylistique, poétique de l'œuvre de Dieu. Et l'intention n'est pas de nous fournir une chronologie exacte. Troisièmement, nous voyons aussi l'interprétation concordiste. On fait concorder sa lecture de Genèse 1 avec les données et les théories de la science. Et ainsi, les six jours viennent des périodes indéfinies. Et chaque interprétation a ses forces et aussi ses difficultés que nous pouvons discuter plus tard, si vous voulez. Mais ce qui me semble utile à dire, c'est que ce premier chapitre de Genèse contredisait de façon explosive les récits de création de son époque. Et croit que notre interprétation aujourd'hui, ce premier chapitre de Genèse, contredit de façon explosive toujours les récits de création de notre temps. Il existe un créateur terriblement puissant, généreusement bon et activement engagé dans sa création. Nous venons avec nos questions par rapport à la chronologie ou les mécanismes de la création. Mais la Genèse nous pose des questions plus importantes et plus fondamentales. Il existe un Dieu créateur. Comment vais-je répondre? Dieu a créé le monde et l'homme et la femme pour y régner. Le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et là, le récit prend une tournure inattendue et surprenante. Pour la première fois, le Dieu trinitaire se parle et s'exhorte à créer l'homme et la femme. Et ils sont dotés d'un privilège unique. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. C'est un privilège unique qui élève et qui distingue l'homme et la femme de toute la création. Dieu reste distinct de ses créatures. L'être humain n'est pas divin, mais l'être humain est à l'image de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde la suite de l'Ancien Testament pour voir comment le mot « image » est utilisé, on voit que ça parle d'une représentation, d'une ressemblance. C'est un objet semblable à quelque chose d'autre et qui souvent le représente. Mais en plus, le texte ici nous aide. Reprenons notre lecture au verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et puis le verset 28. « Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Et donc Dieu qui a créé et qui a rempli sa création et qui a dominé de façon bienfaisante sur sa création, confie cette même tâche à l'homme et à la femme. Alors, être créé à l'image de Dieu, ça veut dire être comme Dieu et le représenter sur terre. C'est être comme Dieu et régner sur terre sous son autorité. Alors, dans chaque mairie en France, vous trouvez l'image du président de la République. Et elle est là pour montrer que c'est sous l'autorité du président de la République et avec son mandat que monsieur ou madame le maire dirige sa ville. Et de la même façon, l'être humain est créé à l'image de Dieu, sous son autorité et avec son mandat. Dieu a créé le monde et l'homme et la femme pour y régner. Et à nouveau, notre vision du monde est transformée. L'homme et la femme ne sont pas de simples animaux, ils sont distincts de la création. Et nous devons rejeter tout ce qui rabaisse les hommes et les femmes au niveau des animaux. Nous avons alors une base fondamentale pour les droits de l'homme. Nous aurions raison de faire tout ce que nous pouvons pour protéger la vie des êtres humains, quoi que leur âge, indépendamment de leurs compétences et de leur arrière-plan. L'homme et la femme sont aussi tous les deux créés à l'image de Dieu. Ils sont égaux en statut devant Dieu. L'homme et la femme sont différents. Nous en verrons plus la semaine prochaine. Mais l'homme et la femme ont la même dignité humaine. Et donc, nous aurions raison d'être attristés, pas horrifiés par tout ce qui rabaisse la femme et par les inégalités injustes qui existent. Nous devons aussi reconnaître que la vision biblique de la sexualité et du genre est binaire. Homme et femme, mâle et femelle. Et c'est vrai que nous ne vivons plus dans le monde parfait de Genèse 1, le péché et la maladie physique et mentale cachent douloureusement notre monde et notre expérience de la sexualité et du genre. Mais nous aurions tort de vouloir gommer les différences entre l'homme et la femme. Et si c'est une question qui vous touche personnellement, parlons-en après notre rencontre. Dieu a créé le monde et l'homme et la femme pour y régner et vivre pour lui. Parce que j'étais surpris cette semaine de voir que la création de l'homme et la femme n'est pas l'apogée de ce récit de création. Certes, c'est un sommet, mais derrière, nous apercevons un sommet encore plus grand, encore plus haut. Chapitre 2, le verset 1. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. L'apogée du récit de la création n'est pas l'humanité, mais c'est Dieu. Dieu qui se repose avec sa création. Bien qu'il y ait du travail à faire dans la création flambante neuve, bien que les êtres humains aient un monde à remplir et à dominer, le monde tourne autour de Dieu. Nous étions créés pour vivre avec Dieu. Et ce repos va devenir un modèle pour la nation d'Israël. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Car le monde ne dépend pas de nous et de notre travail. Le monde tient son existence de Dieu. Nos vies ne sont pas censées tourner autour de notre travail, mais nous étions créés pour vivre avec Dieu. Mais est-ce que c'est une réalité que nous voyons aujourd'hui, les hommes et les femmes qui représentent Dieu et qui vivent comme lui et avec lui? Nous allons voir dans quelques pages qu'Adam et Ève étaient chassés loin de la présence de Dieu à cause de leur rébellion. Et chacun de nous, nous préférons tous vivre dans le monde que Dieu a créé, mais sans lui, sous notre propre autorité. Et le Dieu créateur, bienfaisant, devient aussi notre juge juste. Mais il y a un livre du Nouveau Testament qui commence avec des mots semblables et surprenants. Jean 1, verset 1, écoutez les échos. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quelques versets plus tard, c'est explicité que cette parole est Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui est venu vivre parmi nous. Et c'est ce Dieu le Fils, Jésus-Christ, celui par lequel tout a été créé, qui a parfaitement accompli le rôle de représenter Dieu sur terre et de régner sur la création. C'est Jésus, l'homme parfaitement créé, parfaitement à l'image de Dieu. Pardon, j'ai dit créé. La parole existait déjà. C'est Jésus, l'homme parfaitement à l'image de Dieu. Et c'est grâce à sa mort et à sa vie que nous pouvons connaître Dieu et vivre avec lui et avoir l'espérance du repos éternel avec Dieu. C'est à son image que le chrétien est aussi conformé petit à petit. Alors Genèse 1, c'est un récit de création qui était polémique pour ses premières lecteurs. Et c'est un texte qui reste polémique aujourd'hui. Mais ne soyons pas distraits par les questions que nous posons. Ce sont des questions valables et importantes. Mais ne soyons pas distraits quand Dieu, au travers de Genèse 1, nous pose des questions beaucoup plus essentielles. C'est Dieu qui a créé le monde. Et nous pouvons en être reconnaissants. Et cette création démontre sa personne, qu'il est puissant, qu'il est bon, qu'il est généreux, qu'il est activement engagé dans sa création. Il est la source de vie. Mais est-ce que nous avons reconnu notre redevabilité devant lui, notre Créateur? Et est-ce que nous avons reconnu notre échec de vivre à son image et avec lui? Si c'est le cas, nous pouvons faire confiance à Jésus, celui, l'image parfaite de Dieu, qui nous invite à rentrer dans le repos de Dieu et qui nous transforme petit à petit à son image. Je vais prier et je vais lire à nouveau ces mots de 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Notre bon Père Céleste, nous reconnaissons que c'est toi le Créateur puissant, bon, généreux, activement engagé dans la création. Alors nous reconnaissons aussi que Jésus-Christ, il est celui parfaitement à l'image de toi. Et merci de ce que grâce à lui, nous pouvons te connaître, vivre avec lui et être transformés de plus en plus à ton image. Alors cette semaine, que nous puissions voir là où notre société contredit les vérités de ce chapitre et que nous puissions te connaître et vivre dans le monde que tu as créé de mieux en mieux. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.